Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, le sujet de réflexion et de partage ce soir, psychothérapie et service aux autres.
Oui, voilà, oui. Service aux autres dans le sens humaniste du terme, oui. Ou pour le chrétien dans le sens de la charité, de vivre la charité.
Okay, oui.
Voilà, alors, évidemment, la psychothérapie, c'est un service aux autres, puisque le but, c'est d'aider les autres.
Bien sûr, oui.
Mais on va pas regarder le côté praticien.
Oui.
Mais plutôt le côté, alors, du patient ou de la personne qui fait un service aux autres.
Oui, oui.
Voilà, c'est plus ce côté-là qui va nous intéresser que...
Voilà, parce que ça a un lien avec la façon dont on va le vivre. C'est intéressant de voir comment on va vivre ça, ce service aux autres.
Voilà, il y a les deux aspects. Comment la psychothérapie et le service peuvent être complémentaires. Comment la psychothérapie peut mener normalement au service aux autres, on verra. Et puis, comment, quand on fait un service aux autres, on peut le vivre, qu'est-ce que ça vient confronter chez nous, enfin...
Oui, oui. Donc, oui, donc beaucoup de fois.
Tous ces aspects-là.
Alors, donc, la psychothérapie, normalement, enfin, justement, ça ouvre.
Alors, normalement, ça ouvre.
Moi,
souvent, j'entends dire, même patients à la première séance ou aux premières séances, qui disent « Ah oui, la psychothérapie ou la psychanalyse, c'est se regarder le nombril. »
Alors, et alors, pourquoi ils viennent vous voir? Parce qu'ils veulent se regarder le nombril. Non, ils ont quand même une...
Oui, ils viennent quand même parce qu'ils ont une demande. Mais,
oui.
Mais
oui,
voilà,
c'est
il y a
une
beaucoup
idée
de gens,
comme...
c'est une
oui.
idée que beaucoup de gens ont, comme si s'occuper de soi, c'était se regarder le nombril.
C'est un travail des fois aride. Hein.
Voilà, oui, d'ailleurs, on dit un travail sur soi,
ben
donc
oui.
c'est...
Un travail, c'est pas une... Voilà, c'est un travail.
C'est un travail. Donc, on va voir que c'est pas le cas. Même si les personnes viennent prendre soin d'elles-mêmes. Mais d'abord, ça a aussi des répercussions bénéfiques sur les autres.
Quand on va mieux, quand on
voilà,
se sent
quand
mieux.
Quand on
oui.
se sent mieux, on est mieux avec les autres. Et du coup, les autres se sentent mieux aussi avec nous. Donc, il y a un effet cascade comme ça, et c'est pas que pour ça. Puis, on gardera aussi que la psychothérapie, c'est justement le contraire de se regarder le nombril, même si, a priori, ça peut paraître étrange comme ça. Et même si il peut y avoir des phases un peu que nous, on appelle dans notre jargon égotistes, dans le sens
oui.
où la personne va,
renforcer, une introspection, enfin,
voilà,
bah, oui.
et puis renforcer
oui,
son ego.
Oui.
Alors, soit parce que c'était déjà présent et que ça a parfois été quelque chose qui a déclenché la démarche, et il y a même des personnes qui espèrent trouver, par exemple, dans la thérapie, une sorte d'indépendance. Alors, qu'il faudra revoir,
oui.
redéfinir, parce qu'il ne s'agit pas oui. de faire ce qu'on veut, de ne plus prendre en compte les autres.
On comprend, quand on est dans un mal-être, on espère une libération. Donc,
voilà. voilà, une libération, mais qui n'est pas forcément l'indépendance, mais plutôt une forme d'interdépendance, c'est-à-dire
de... De relations,
de ne pas être dans la dépendance aux autres, ça c'est important, mais pas être non plus dans l'ignorance ou la non-prise en compte des autres, mais d'être dans la relation et donc forcément dans l'interdépendance.
Donc voilà, oui, c'est une. Mais au départ, ça peut être, il peut y avoir des phases.
Ça peut être une demande, ça peut être aussi, ça arrive aussi quand une personne. Avec une période dépressive ou un mal-être assez profond et qu'elle retrouve la confiance en elle-même et l'estime d'elle-même. Et dans ce cas-là, c'est un peu une phase transitoire d'affirmation de soi. C'est-à-dire que après avoir subi soit les événements, soit l'entourage, elle va s'autoriser en quelque sorte à s'affirmer. Alors, souvent au début d'une façon un peu forte.
C'est un effet balancier.
Un effet balancier et qui peut faire croire que voilà, il y a une phase un peu égotiste.
Mais c'est passager.
Ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre soit tout seul, soit sinon c'est le psychothérapeute qui va veiller à ce que la personne prenne un peu en compte aussi les autres.
Voilà, on trouve cet équilibre. Donc ça, il peut y avoir, voilà. Donc, le fait d'associer psychothérapie et nombrilisme, en fait, c'est finalement, il y a quelque chose que l'on ignore. Enfin,
voilà, c'est une méconnaissance complète de ce qu'est la psychothérapie. Alors, faut dire, en même temps, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de savoir vraiment ce que c'est. Ou alors, ça peut être aussi une résistance à changer.
Ah oui.
C'est-à-dire, soit la personne ne connaît pas du tout et puis elle s'imagine que c'est uniquement pour se regarder le nombril.
Oui, donc c'est une sorte de défense à ce moment-là.
Ça peut être une défense. Je vais pas aller me regarder le nombril, comme ça, je bouge pas.
Voilà, c'est ça.
Je change pas la situation.
Une sorte de déni, enfin, de refus.
De refus d'évoluer, de changer, de se poser des bonnes questions. D'un travail sur soi.
Un travail sur soi. Alors, là, on va voir justement cette relation entre psychothérapie et service aux autres. Parce qu'il y a un lien.
Il y a un lien, et même, je pense qu'inévitablement, ils vont s'associer. Alors, soit avant. Oui. Voilà, la personne fait déjà un service et puis elle entreprend une psychothérapie, soit en cours de thérapie, ça arrive fréquemment aussi que à un moment de la thérapie, la personne ait envie de s'engager vers les autres. Ça fait même partie du processus normal, on verra. Soit après, dans la vie, la personne fait sa thérapie et puis elle reprend sa vie normale et à un moment, elle a envie de s'engager.
Voilà. Oui. Donc il y a tous les cas de figure, mais il y a un lien, justement, puisque ça rétablit un mode de relation ajusté, on peut dire, la thérapie. Donc, rendre service aux autres, ça va de soi, ça va avec.
Et ça fait partie, on le verra, en tout cas dans la gestalt-thérapie, la notion d'engagement est très importante. Ça fait partie de l'engagement aussi dans la vie, de prendre en compte les autres.
Bien sûr, c'est sûr que de toute façon, il y a une interaction entre tous les humains. Donc, c'est logique, il y a quelque chose de logique de vouloir ouvrir.
Oui, de s'ouvrir aux autres, de s'engager pour les autres, de ne pas être que dans sa vie à soi d'une façon un peu égoïste, finalement, mais vraiment de s'ouvrir aux autres et puis d'être touché aussi par les autres.
C'est ça, la compassion.
De ressentir de la compassion, de ressentir de la charité.
Alors justement, la thérapie, la psychothérapie, elle peut aider à retrouver, par exemple, des justes émotions, enfin, si elles sont
Oui,
débloquées.
Alors, tout cas pour les thérapies que je pratique et mon épouse, on travaille beaucoup sur les sensations, sur les émotions, donc à retrouver des émotions ajustées, d'apprendre à les accepter, à les gérer, à réagir en conséquence d'une façon adaptée. Mais on pourrait même élargir à la spiritualité. J'ai beaucoup de personnes donc chrétiennes qui grâce à la thérapie ou grâce à des stages ont renouvelé leur spiritualité d'une façon saine, c'est-à-dire d'une façon un peu épurée de toutes les images infantiles, du Dieu qui punit, du Dieu qui est méchant, s'ils ont eu des parents un peu méchants.
Oui, les projections.
Voilà, toutes les projections infantiles. Et du coup, non seulement ça simplifie toute la vie émotionnelle, mais souvent ça simplifie aussi toute la vie spirituelle.
Qui devient plus mature, on peut dire.
Qui devient plus mature, qui est plus dans l'altérité que dans la pensée magique ou dans la dépendance, par exemple, qui est vraiment dans quelque chose qui fait grandir plutôt que régresser. Donc c'est vraiment à la fois un soutien et une aide à la spiritualité. Tout comme la spiritualité peut être une aide aussi et un soutien quand on fait une thérapie, après on peut remettre sa séance dans la prière ou des points particuliers qu'on a vus ou approfondis, les reconfier dans la prière.
Ça va ensemble. On peut dire.
Ça se complète.
Ça se complète, ça voilà. Se complète. Ça se complète, oui. Donc, c'est psychothérapie et service aux autres, ça va ensemble, on peut dire.
Voilà. Pour commencer, peut-être je vais faire un témoignage de mon expérience.
Courant,
en principe, les psys parlent pas d'eux. On va faire un petit encart. En même temps, je vais pas vous raconter toute ma vie dans tous les détails.
Un peu de votre expérience.
Je sais pas si les auditeurs le savent, mais tous les anciens psychothérapeutes. Alors, je dis anciens parce que maintenant, ça s'appelle psychopraticien.
C'est ça, psychopraticien.
Je ne sais pas si vous savez, il y a eu la loi Accoyer, donc qui a changé, mais qui a été une OPA, c'est-à-dire une appropriation du titre de psychothérapeute par les psychiatres et par les psychologues. D'abord par les psychiatres qui voulaient, parce que peut-être ils se sont rendus compte que les gens allaient de plus en plus vers les psychothérapeutes.
Donc en s'appropriant le titre de psychothérapeute, sont dit comme ça, ils viendront chez nous.
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, même si derrière, après, il y avait l'argument des sectes et tout ça, qui est un argument...
Oui, parce que c'est bien balisé quand même.
Complètement bidon. Mais je pense que, en tout cas, la psychothérapie s'était fait un nom auprès des gens. Et ça a été une façon de récupérer le nom. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, c'est que, avec la loi sur la médecine, il y a une médecine de protocole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous faire soigner en hôpital, n'importe où, les médecins doivent suivre des protocoles. La psychothérapie telle que la pratiquent les psychopraticiens, c'est pas une thérapie de protocole parce que justement on prend en compte la personne.
Ah oui.
Et donc on n'applique pas, je sais pas, vous avez une dépression, ben je suis tel chemin pour vous soigner. Vous avez autre chose, je vais faire tel autre chemin et
comme si la personne, on prend pas en compte la personne avec l'originalité qui est chacun.
Et du coup, ben ça a participé aussi à à sa vision, qui est une vision d'État, hein, il faut le dire, et économique aussi, de soigner à travers les protocoles.
Et puis le psychothérapeute suit une psychothérapie, alors que le psychopraticien...
Aujourd'hui, ce qu'on appelle le psychopraticien a obligation dans son cursus de formation de suivre une psychothérapie. Les psychanalystes aussi de faire une psychanalyse, ce qui n'est ni le cas des psychiatres, ni le cas des psychologues.
Ils ne sont pas obligés de se remettre en question par leur expérience, Donc, on comprend que c'est... ils restent sur un...
Ce sont des métiers différents.
Oui, ce sont des métiers différents.
Ils sont formés... Complémentaires, d'ailleurs. Ils sont formés pour autre chose. Un psychiatre est formé pour donner un traitement médical. Un psychologue, essentiellement, pour faire passer des tests. Alors que les psychopraticiens, ils sont formés pour soigner à travers la relation.
Alors, on va voir ça, on va revenir à votre témoignage dans quelques instants. Vous voyez, il y a du suspense, Pascal Parinet. On va écouter toutes ces Daniel Balavoine, Sauver l'amour. Et quelque part, le métier de psychopraticien, c'est pour sauver l'amour.
Oui, sauver, restaurer.
Restaurer. Vaste programme, dit Guillaume, oui, en effet.
Radio Notre-Dame.
Oh,
Voilà, c'était Daniel Balavoine, Sauver l'amour. Et bien souvent, le psychopraticien ou anciennement psychothérapeute, eh bien, quelque part, restaure l'amour. Hein,
voilà,
restaure
son travail, c'est de remettre de la fluidité au niveau de relations, alors d'amour, en tout cas de relations aimantes ou bienveillantes. Et de permettre la relation bienveillante avec les autres.
Alors, ce soir, nous parlons de psychothérapie et service aux autres. Et vous venez commencer par votre propre expérience et nous en faire part, mais pour que l'on comprenne bien. Et vous nous disiez que, c'est vrai, vous mettiez les choses un peu au point, parce qu'il y a eu les psychothérapeutes... autrefois sont les psychopraticiens, puisque le corps médical, les psychiatres se sont approprié le titre
au travers
de la loi, bien sûr, mais sans pour autant faire une psychothérapie pour savoir
non,
de quoi il s'agit.
Non, ça fait pas partie de leur formation et ils font un autre métier.
Ils font un autre métier, mais ils se sont approprié le titre.
Voilà.
Bon, alors donc on va revenir à votre témoignage.
Voilà. Alors oui, cette introduction, c'était pour dire que tout psychopraticien, tout psychanalyste a fait lui-même une psychothérapie, une psychanalyse. Voilà, et donc mon témoignage, c'est que depuis mon enfance, mais surtout vers 10-12 ans, je me suis intéressé et à la psychothérapie et à la spiritualité. Au sens large, d'ailleurs, je lisais un peu de tout, des livres sur le yoga,
vraiment... Oui, de façon très large.
D'une façon très, très large.
Vous vous informiez, voilà.
Voilà. Donc, je lisais beaucoup de livres qui traitaient de psychologie, de spiritualité, parce que ça me passionnait.
Oui. Il y avait une orientation, quand même.
Oui, il y avait déjà une orientation. Et c'est deux sujets de thèmes qui m'ont jamais quitté, d'ailleurs.
Ben oui. Jusqu'à en faire votre métier. Mais justement, puisque vous, en tant que... C'est vraiment aussi psychrétien, quoi. Spiritualité, le lien entre psychothérapie...
Entre psychologie, psychothérapie et spiritualité.
Qui prend en compte donc toute la personne.
Voilà.
Dans son unité.
Oui. Alors, bien sûr, là, j'étais à peine collégien.
Mais il y avait un goût,
Je ne comprenais pas forcément grand-chose avec le recul.
Mais il y avait une attirance.
Voilà, mais il y avait une attirance. Et puis, sans doute, ça participait à mon désir de comprendre le monde qui m'entourait. Voilà, c'était...
Comment on fonctionne.
Voilà, et j'étais dans une recherche qui ne m'a jamais quitté, d'ailleurs. Et toute ma vie, je serai un chercheur de sens, pourrait dire. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Après, j'aurai peut-être plus de certitude. Mais en tout cas, tant que je suis en vie, je cherche. Alors du coup, après, un peu plus tard, en grandissant, mais déjà dans l'adolescence, mais on va dire lycéen et après, je me suis intéressé aux différents courants psychologiques, aux grandes traditions spirituelles, à leurs visions, aux différentes religions. Même si, par origine, je suis chrétien, par origine et par choix.
Et par choix aussi, bien sûr.
Aussi. Voilà, ça c'est pour situer le contexte. Mais pour revenir au lien psychothérapie et service, ma première psychothérapie a présenté pour moi différents aspects. Alors, je ne vais pas vous raconter, mais en relever seulement deux. D'abord, c'était un investissement personnel pour ma vie présente et future. Mmh. J'étais jeune et il me semblait que ça allait être bénéfique à la fois pour mon présent, pour résoudre des difficultés, et puis pour mon futur, parce que voilà, j'investissais pour mon avenir, en quelque sorte.
Et vous avez rencontré un psychothérapeute à ce moment-là, et sur votre chemin, il y a eu un psychothérapeute qui a été une aide véritable.
Alors, qui a été une aide véritable, et moi, je l'ai vraiment vécu comme quelqu'un qui me tendait. Alors, il était plus âgé que moi à cette époque-là. Donc, comme une main tendue, c'est comme ça que j'ai vécu, au-delà de tout ce que j'ai pu apprendre. Enfin, pour moi, c'était d'abord un être humain qui me tendait la main.
Donc une aide, une main tendue, une aide,
Et ça, ça a été vraiment le point important, parce que c'est à partir de là que ma décision d'en faire un métier s'est vraiment incarnée en moi.
Et là, vous aviez un modèle concret.
Oui.
Il vous a aidé, et donc ce désir d'aider aussi.
Et du coup, ce désir d'aider, alors, ça ne veut pas dire que je n'aidais pas les personnes avant. Si j'avais des amis qui avaient des besoins ou des difficultés, j'étais prêt à les aider.
Bien sûr, mais ça, d'une façon particulière, là.
Voilà, d'une façon particulière et qui a vraiment pris sens dans ma vie. Voilà, on pourrait dire que c'est là que mon métier, ou en tout cas ma vocation de psychopraticien et d'aider les autres, a vraiment pris forme, en quelque sorte. Et d'une certaine façon, par ma thérapie ou grâce à ma thérapie, je désirais partager à la fois ce que la vie m'avait apporté, et ce que la psychothérapie m'avait apporté, et aussi aider à mon tour ceux qui en auraient le besoin.
Il y avait là comme un point de convergence.
C'est un peu l'effet en cascade dont je parlais tout à l'heure. Finalement, quand on fait une psychothérapie, bien sûr, on peut dire au départ c'est pour soi, mais c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour l'environnement, pour les autres, et forcément ça rejaillit sur les autres.
Mais oui, bien sûr. Ce qui a été le cas finalement dans votre expérience.
Oui. Ce qui fait qu'on pourrait dire que la psychothérapie a participé vraiment et pleinement au fait de me tourner vers les autres. Dans mon métier, mais aussi dans des activités bénévoles, parce que ça a vraiment fait sens pour moi d'aider les autres, de se tourner vers les autres, et puis que j'ai pu l'intégrer dans ma vie. Et donc, c'est vraiment cette notion de main tendue, d'aider les autres, d'être en relation, qui s'est intégrée à mon être au monde, on pourrait dire, en quelque sorte. Alors, je dis dans mon métier, et plus parce que, par exemple, on a servi pendant 4 années l'Église.
Avec
Marie-Laurence, avec mon épouse. Pendant 4 ans, on a été bénévolement pour servir au diocèse de Toulon, où on tenait un lieu d'accueil. On a fait aussi des formations au séminaire de Toulon, au séminaire de Notre-Dame de Vie. Voilà, à un moment, je faisais de l'accueil aussi à la chapelle Saint-Rita, à Paris.
À Paris, oui, d'accord.
En face du Moulin Rouge.
Oui, c'est un lieu.
Voilà, donc, tout un tas de services aussi.
D'église,
indépendamment de notre métier. Voilà, et puis aujourd'hui, alors ça, c'est plus Marie-Laurence... que moi qui viens en aide à des associations de Pondichéry, donc en Inde, plus des associations qui s'occupent des femmes et des enfants, souvent des rues, ou en tout cas
dans, oui, dans, il y a une grande
dans,
pauvreté,
dans
oui.
une grande pauvreté, ou handicapées, puisque on accompagne beaucoup, essentiellement deux associations, et par exemple, on a participé, on a trouvé le financement pour une association qui s'occupe d'handicapés pour créer un atelier de prothèses orthopédiques sur place, parce que sinon, il fallait qu'ils aillent à... Alors d'abord qu'ils passent par les services d'État, et c'est très, très long. Ça, c'est dans une ville qui est à plus de 3 heures de route, ce qui fait que bien souvent, le temps que ça se fasse, l'enfant, son pied avait grandi et la prothèse était plus
adaptée. Alors donc, par cette association que vous aidez
Voilà, on a permis, Marie-Laurence essentiellement, a permis la création d'un atelier de fabrique de prothèses orthopédiques.
Sur place, alors.
Sur place, oui. Elle a aussi un autre projet de financement d'une chambre de sensibilisation pour autistes. D'éveil des sens, du toucher, de la lumière, du son, parce que ils travaillent, ils ont développé une méthode thérapeutique pour les enfants autistes à travers l'éveil des sens.
Oui, oui, oui.
Voilà, donc il y a ça aussi d'une association, alors là beaucoup plus petite, qui accueille des enfants dans un ancien lieu, enfin pas ancien, parce que dans un village de lépreux près de Pondichéry, donc c'est les populations les plus pauvres.
Alors, les il y a lépreux, encore des lépreux. Là.
Alors, maintenant qu'ils sont guéris.
Oui, oui, maintenant on peut les traiter.
Mais qui restent dans le même état handicapés. Et puis surtout, qui font partie des populations les plus pauvres. Et il y a une association qui parraine des enfants, qui les reçoit, qui s'en occupe après l'école, qui fait école pour les plus petits et pour les plus grands, fait un peu les cours d'après l'école. Que Marie-Laurence soutient et aussi. Voilà, un peu pour dire que c'est pas seulement notre métier,
c'est aussi
au travers d'actions bénévoles.
Bénévoles, caritatives, ou de, c'est ça, d'aide, en tout cas d'aide. Et notamment à travers le médical ou paramédical, ça reste...
L'éducation.
Oui, éducation.
Ou l'éducation.
Alors... il y a beaucoup d'activités. Je crois que vous avez un projet aussi.
Oui, on a un projet de mettre en place, aux vacances scolaires de la Toussaint. Donc, je crois que cette année, c'est fin octobre. Un stage en Inde, avec un mi-temps travail sur soi. Donc, un stage développement personnel à mi-temps.
Oui.
Et l'autre mi-temps de bénévoles dans une association caritative. Alors, soit auprès des enfants, on verra. Il y a plusieurs associations indiennes parce qu'on travaille, parce qu'on a découvert aussi le monde des associations.
Là-bas, nous, surtout.
Nous, on travaille uniquement avec des associations indiennes, parce que c'est important qu'ils se prennent en charge. Et puis, ils le font très bien. Et
ils connaissent les besoins aussi.
Et ils connaissent les besoins, ils parlent la langue, enfin.
La culture,
La culture, il y a tout un tas.
Oui, vous venez pas appliquer quelque chose.
Voilà. C'est pas l'occidental qui sait
qui vient apporter
sa science. C'est on vient les aider avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est, mais ça reste quand même eux
qui prennent l'initiative, ils connaissent les besoins, ils savent ce dont ils ont besoin.
Voilà. Et puis indienne aussi, parce qu'on a découvert qu'il y a des associations qui font du business aussi. Alors ça, c'est chose qu'on n'imaginait pas, mais qui finalement, comme les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés là-bas, ils font des placements d'argent là-bas à des taux certes moins chers pour les associations, mais plus élevés qu'en Europe.
Ah ben oui, c'est tout un trafic, donc... Un grand merci. Pascal, on va y revenir dans quelques instants. Et bien sûr, nos auditeurs vont pouvoir aussi nous rejoindre pour nous dire, je ne sais pas, si ils ont, comment ils ont pu associer peut-être l'aide aux autres.
Oui, leur service, comment ils vivent leur service, comment, voilà, quel plaisir ou quelle difficulté
ils rencontrent dans le service aux autres. 01 56 2 fois 44 00 pour nous rejoindre et pour partager tout cela. On écoute Jean-Louis Aubert, On vit d'amour.
Radio Notre-Dame.
On vit d'amour. Quels autres ont envie d'amour, le mien et le vôtre. Envie d'amour quand il n'y a plus d'eau fraîche. Envie d'amour tout au fond de la dèche. Laisse-le briller, éclairer, laisse-le venir, laisse-le aller. Car on vit d'amour. On vit d'amour. Laisse-lui vivre sa vie d'amour, car envie d'amour, envie d'amour. Laisse à l'amour sa liberté.
D'amour, c'était Jean-Louis Aubert. Donc, eh bien, oui, justement, l'amour très concret par l'aide aux autres. Et c'est donc ce que vous proposez là, à travers ce que vous mettez en place aussi ce que vous vivez déjà, et vous mettez en place donc pour les vacances scolaires d'octobre-novembre ce stage en Inde avec un mi-temps de travail sur soi.
Oui.
Et un mi-temps de travail bénévole dans une association caritative
locale.
Locale. Alors,
voilà, et donc il y aura toutes les informations sur notre site cet été.
Oui.
Ou à la rentrée en septembre avec les dates.
Ça.
Voilà, les différentes possibilités.
Alors, le site, vous pouvez déjà le...
Alors, ifpsy.com.
Voilà. ifpsy.com. Donc là, on aura toutes les informations. Donc vous nous parliez de votre comment vous en étiez venu dans votre parcours à cela, hein, votre témoignage entre psychothérapie et service. Peut-être que nous allons maintenant développer certains aspects.
Oui, peut-être donner une autre vision de la psychothérapie que le nombrilisme. Parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, la psychothérapie n'est pas autant auto-centrée, mais justement, c'est l'inverse.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est relation.
Elle permet justement de rétablir la relation et pas de.
Oui. Alors, d'abord de mettre en relation différents aspects de la vie de la personne, que ce soit son histoire, son comportement, sa vision de la vie, ses scénarios inconscients, mais aussi ses relations aux autres. Surtout, la psychothérapie est avant tout relationnelle. C'est-à-dire qu'elle regarde comment se passe la relation à l'autre. En tout cas, c'est vraiment la spécificité de la Gestalt-thérapie. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres thérapies, d'ailleurs, ou d'autres techniques. Voilà, par exemple, on regarde en Gestalt comment se passe la relation de la personne avec son environnement, mais aussi comment ça se passe avec le thérapeute. Parce que c'est la même personne. Et donc, ce qui se passe dans la relation avec le thérapeute, forcément, se passe aussi dans son environnement.
Oui.
Voilà, et donc, quel mécanisme elle met en place
Et donc, l'évolution d'une relation juste, ajustée.
Voilà, et tout le travail, c'est sur la relation, de restaurer une relation où l'adaptation est créatrice, et non pas où il y a des blocages, où il y a des évitements ou des choses comme ça, mais où la personne va pouvoir s'adapter d'une façon créatrice à l'environnement. Donc, on pourrait dire qu'en dehors de soulager le mal-être, qui évidemment est le premier objectif, en même temps ou tout de suite derrière, l'objectif, c'est de restaurer la relation aux autres d'une façon fluide et saine.
Il y a une dimension à la fois personnelle avec soi-même et sociale, voilà. on peut dire, puisqu'on vit en société.
Et ça, c'est vraiment une spécificité de la Gestalt-thérapie. Autant, par exemple, la psychanalyse est plus centrée sur l'intérieur de la personne, ce qui se passe dans son inconscient, la prise de conscience de son inconscient, mais aussi dans la relation, puisque finalement, l'analyse travaille sur le transfert, et le transfert, c'est une relation. Mais la Gestalt est vraiment centrée sur la relation entre la personne et son environnement. Et c'est vraiment là, à ce processus d'interaction entre personne, environnement, que tout le travail se fait.
Alors,
Voilà, et par exemple, aujourd'hui, on sait que finalement, c'est pas tant la technique utilisée qui est importante.
Dans la psychothérapie.
En psychothérapie, il y a différentes techniques.
C'est moins la technique.
Voilà, et que le facteur le plus important pour la guérison, c'est la relation. Voilà, ça va être la relation qui s'établit entre la personne et le thérapeute. Mm. C'est vraiment ça qui soigne.
C'est la relation. La guérison, c'est... On peut dire que la guérison, elle se constate dans l'amélioration de la relation.
Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est à la fois la relation qui soigne et qui permet de voir que la personne va mieux, de constater les progrès de la personne. Oui. Donc c'est à la fois le moyen... Et le signe de la guérison.
Voilà, oui.
Voilà, et c'est pas nouveau, parce que Freud disait déjà qu'une analyse est finie quand le transfert est résolu, c'est-à-dire quand les relations infantiles qui viennent parasiter en quelque sorte la relation aux autres sont résolues.
Parce que, en fait, c'est ça, c'est. C'est des relations infantiles qui viennent s'intercaler
ou remplacer la relation à l'autre. Mm-hmm. Ça, c'est le phénomène de transfert. Quand la personne a la capacité de travailler et quand la personne a retrouvé la capacité d'aimer. Et donc, quand on regarde, ces trois points, finalement, ça représente la capacité de relation à l'autre. Mmh. C'est-à-dire, quand on a une relation adulte ou d'altérité et non pas une relation d'enfant avec l'autre, quand on peut travailler, ça veut dire qu'on est en relation avec les autres. Et puis, quand on peut aimer, aussi, on est en relation avec les autres.
Donc, ce sont des signes d'équilibre, d'ajustement.
D'équilibre psychologique et de fin de thérapie.
Oui.
En tout cas, d'analyse. Mm. Et donc,
le point le plus, central, comment on peut dire.
Le plus central de toute psychothérapie, c'est à la fois l'acceptation de soi. D'accepter qui on est, et l'ouverture aux autres, et les deux vont ensemble d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors donc, on voit bien là, dans ce que vous nous dites, que ça ne s'oppose pas finalement psychothérapie et service aux autres, mais au contraire, puisque la relation, ça rétablit. Une relation,
l'altérité.
Oui. Tout naturellement, on va vers les autres.
Naturellement, on va vers les autres.
Et on a envie d'aider, de servir, en fait.
Oui. Oui.
C'est une conséquence d'un mieux-être, on peut dire, qu'apporte la psychothérapie dans ce...
Oui, c'est vrai, c'est presque le point nodal. À la fois de s'accepter et de s'ouvrir à l'autre. Mmh. Alors, en acceptant aussi sa sensibilité, en acceptant les différences, parce que l'autre est forcément différent.
Oui, bien sûr. C'est l'altérité, d'accepter l'altérité.
Voilà.
Autrement, on est dans un état dont on essaie de trouver dans l'autre ce qu'on est, un miroir.
Un miroir ou un complément. Là, c'est vraiment d'être dans l'acceptation de l'altérité sans que ça soit conflictuel ou sans qu'il y ait de rapport de domination, pouvoir ou autre, mais vraiment d'être dans une altérité qui respecte les deux personnes.
C'est ça. Ouais. Et donc qui peut devenir créatrice, en fait, une relation qui...
Qui devient créatrice, ou qui devient aussi acceptation de l'autre, parce que ça peut arriver, par exemple, qu'on soit pas d'accord, on peut, je sais pas,
oui, pas
avoir
forcément
des idées politiques, par exemple, différentes, mais on peut accepter que l'autre ait d'autres idées. Nous, on a les nôtres. Voilà,
sans que ça devienne conflictuel.
Sans que ça devienne conflictuel. Et après, chacun va voter en fonction de ses goûts et accepte le gagnant.
Voilà, ça, sans qu'il y ait, sans que ça devienne quelque chose, oui, de conflictuel, ouais, quoi. Comme on peut voir souvent, dans la société, si la société avait cette attitude-là, tout se résoudrait plus facilement.
Plus paisible.
Plus paisible, voilà.
Plus paisible. alors c'est paisible. Vrai, là je disais la politique, mais c'est vrai pour plein de choses.
Bien sûr, bien sûr.
Dans beaucoup de la communication, des échanges, dans la relation, il y a cette question d'accepter l'autre dans sa différence.
Ben oui. Eh oui, on retrouve ça partout, quel que soit le secteur, puisqu'on est toujours en relation d'une façon ou d'une autre.
Ouais. Et comme chacun est unique, il y a forcément des différences.
Alors comment les vivre, justement, de cette façon-là, pour que ce soit en acceptant l'altérité, donc en accueillant l'autre avec sa différence. Alors, le travail sur soi, donc, ça permet, on peut dire, de restaurer la relation aux autres. Et vous disiez, tout en accueillant sa sensibilité.
Sa sensibilité, en accueillant la différence de l'autre, en étant sensible aussi aux difficultés que peuvent rencontrer les autres, à la souffrance humaine. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect, alors, qui est fondamental en gestalt-thérapie, mais qui est présent dans les psychothérapies, c'est l'engagement. Alors, oui, qui n'est pas seulement dans la capacité de décision, oui, mais aussi dans l'engagement dans la vie. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle.
Tout engagement, et on sait combien aujourd'hui c'est un manque de maturité de ne pas s'engager.
Alors, c'est un manque de maturité ou c'est une difficulté psychologique?
Psychologique, oui.
Parfois.
On va y revenir dans quelques instants avec nos auditeurs aussi au téléphone. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio. Radio Notre-Dame.
Ce soir, nous sommes en compagnie de Pascal Parinet, psychomène. Et donc, nous évoquons ce thème ce soir de la psychothérapie et service aux autres. Et nous voyons justement comment une psychothérapie peut permettre de s'ouvrir, hein, de servir.
S'ouvrir,
et puis on va voir s'ouvrir pour servir et puis s'engager. On va en parler dans quelques instants, mais je crois que vous avez des stages d'été.
Oui.
Où ça en est, à quel point?
Alors, il y a maintenant, il reste un stage les 18 et 19 juillet.
Parce que le premier est complet.
Voilà, sortir des situations de harcèlement, de violence ou de perversion. Donc, le stage vise à aider les personnes justement qui vivent des situations de harcèlement, de violence, que ce soit dans leur travail, dans leur vie personnelle. À apprendre à poser des limites, à ajuster des bons comportements de façon à sortir de ces situations le plus rapidement possible.
Voilà, donc c'est quelque chose de très pratique et de qui peut être libérant, hein, parce que lorsqu'on vit des situations comme ça...
Oui, et il y en a de plus en plus. En tout cas, dans le monde du travail, moi, je suis surpris. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent des situations violentes. Alors, pas seulement des situations de charge, de travail, mais de rapports violents entre les gens. Et ça, c'est de plus en plus fréquent.
Vous le constatez, vous, qui avez cette vision de...
Qui n'y avait pas il y a 5 ans. Alors, doute, c'est lié aux charges qui augmentent, à la pression de plus en plus forte sur les gens. Mais du coup, ça crée de l'agressivité entre les personnes. Et il y a de plus en plus... Alors, c'est toujours très ambigu parce que c'est à la fois copains. Souvent c'est copain, mais en même temps par moment d'une extrême violence.
Que des sournois en même temps, et donc pas.
Voilà. Et du coup, on voit de plus en plus de personnes en souffrance au travail, non seulement à cause des charges de travail, mais aussi à cause de la violence des rapports humains.
Donc il faut pouvoir poser des limites et se positionner là.
Là, il y a vraiment apprendre à poser des limites, à apprendre à se faire respecter, à se positionner. Tout en faisant son travail, c'est normal. Mais aussi poser des limites parce que au niveau horaire ou autre, parce qu'il y a un moment, il y a plus de limites. Surtout maintenant avec les portables et Internet.
Oui, c'est tout le temps.
Ça peut être en permanence. Donc vraiment d'apprendre à définir sa frontière. À la fois par rapport à la pression du travail, mais aussi dans des relations qui seraient violentes. Alors, dans le travail ou dans la vie personnelle, privée aussi des personnes.
Et vous voyez aussi une augmentation, là, dans ce domaine privé ou...
On voit des choses, des gens qui vivent des situations très difficiles de violence ou de harcèlement, mais on voit pas une augmentation comme on peut voir dans les relations professionnelles.
Alors donc ce stage est...
18
très...
et 19 novembre, alors pour...
Juillet.
Juillet, pardon. Voilà, et donc un autre stage sur travail sur soi et service aux autres en novembre.
Ah oui, c'est ça, oui.
Voilà.
C'est ça, celui-là en novembre, mais alors...
aux vacances de la Toussaint,
parce que
vacances
ça se passe
scolaires.
En Inde.
Parce que ça se passera en Inde.
Voilà, oui.
Et alors, donc... Pour
tout le renseignement, quel qu'il soit, donc...
Soit sur ifpsy.com.
Ifpsy.com, oui.
Il y a un formulaire de contact.
Oui.
Soit en appelant le 06...
Oui.
60...
Oui.
15... 79,
oui.
60.
06 60 15 79 60. Tous les renseignements sont au standard pour si vous n'avez pas pu noter. Voilà, donc on poursuit ce parcours, on peut dire, entre le lien entre psychothérapie et service aux autres. Et vous nous parliez aussi, justement,
de l'engagement,
hein, la capacité de décision, mais aussi de s'engager dans...
Dans la vie, parce que l'engagement n'est pas que intellectuel ou volontaire. C'est pas, s'engager, c'est pas seulement décider. C'est avec tout son être.
Tout son être, oui.
Et donc, c'est pour ça que je précise engagement dans la vie, parce que c'est avec tout son être.
Donc, tout, c'est là aussi, on voit que la psychothérapie peut aider, parce qu'il peut y avoir des blocages.
Oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'engager pour différentes raisons, ou qui vont être dans des évitements. Donc avec des comportements ou de fuite ou d'évitement, de contournement, ou alors de pas d'engagement du tout. Ça, c'est assez fréquent, ça, par contre, dans la vie, de rencontrer des personnes qui ont des difficultés d'engagement, que ce soit pour prendre des décisions, pour faire des choses. Alors, les jeunes aussi, je pense aux jeunes qui préfèrent jouer aux jeux vidéo ou regarder des séries alors que, je sais pas, ils sont au chômage et qu'il faut qu'ils cherchent du travail, par exemple, ou qu'ils ont des examens à préparer. Enfin,
c'est une sorte de fuite.
C'est une fuite dans un monde un peu virtuel. Mais c'est surtout une difficulté à s'engager dans la vie concrète.
Et qui est due
Qui peut être dû à différentes choses, en tout cas quand il s'agit à la fin des études, par exemple, qui est dû à la difficulté d'entrer dans le monde adulte, et donc dans le monde du travail, où on devient autonome, responsable de sa vie, Parfois, c'est quand même agréable d'être chez les parents ou pris en charge par les parents.
Et donc, quelque part, inconsciemment, un refus de grandir, devenir adulte.
Oui, voilà. En tout cas, de franchir ce cap de l'autonomie complète. D'être un pied en dehors de la famille, en quelque sorte, et puis un pied qui reste dans la famille, ce qui fait que le jeune n'arrive pas vraiment à s'engager complètement dans sa vie d'adulte.
Alors donc, là, ça peut aider, justement.
La psychothérapie, mais particulièrement la gestalt thérapie, qui est vraiment la thérapie de l'engagement, ça aide la personne à retrouver sa capacité à s'engager. Et du coup, la personne va se sentir responsable, bien sûr, de sa propre vie, mais aussi solidaire de son environnement, c'est-à-dire qu'il se sent aussi responsable de ce qui l'entoure, du monde qui l'entoure, et du coup des autres. Alors il s'agit pas d'assumer les responsabilités des autres, mais d'être solidaire avec les autres.
Et puis on peut pas s'engager donc il y a aussi un... on est appelé quelque part selon.
Selon ses propres goûts, ses propres désirs, selon les capacités, les opportunités aussi de la vie, les portes qui s'ouvrent dans la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette capacité d'engagement qui est là. et qui fait que bah, à la fois la personne se met en mouvement et saisit les opportunités de la vie. Enfin,
ouais.
Parce que voilà, il y a les deux aspects. À la fois la personne, c'est important qu'elle s'engage, qu'elle se mette en mouvement. Et puis, il y a aussi la vie qui apporte.
Oui, il y a des opportunités, des choses imprévues qui se présentent, on peut dire. Voilà. Et donc, il y a comme une rencontre entre... Oui, on perçoit l'aspiration, et entre l'aspiration et puis le...
Oui, alors qu'on peut appeler le hasard, qu'on peut appeler la synchronicité quand on est plutôt psy, ou l'inconscient qui met en œuvre, qui favorise les choses.
La providence
ou la
aussi.
La providence quand on est croyant.
Voilà. Donc, il peut y avoir des rentes. Mais en tout cas, c'est une rencontre quelque part.
Voilà, c'est une rencontre et un ajustement, en quelque sorte, entre la personne et la vie.
Et l'environnement.
Voilà.
Et,
Mais pour qu'il y ait cet ajustement, il faut qu'il y ait engagement.
Oui, oui.
S'il n'y a pas l'engagement, voilà, c'est un peu comme la personne au bord d'un chemin qui regarderait les voitures passer ou la vie passer.
Mais sans prendre la route.
Voilà. Sans faire du stop ou sans prendre le volant de sa voiture pour avancer.
Oui, il faut voilà, faut entrer dans le bain de la vie, quoi.
C'est... Ouais, ouais.
Alors, donc, bien souvent les personnes vont s'engager dans des activités, c'est vrai, à ce moment-là.
Alors,
diverses.
Alors, ça peut être dans la paroisse, ça, pour ceux qui sont chrétiens ou croyants. Ça peut être dans des associations sportives. Y a, aujourd'hui, il y a une telle diversité d'associations.
Tout le monde peut trouver son...
Que chacun peut trouver en fonction de ses goûts, de ce qui l'intéresse, ce qui le passionne. Et puis... ses possibilités d'horaire, je sais pas trop, de temps disponible, voilà, et puis des besoins en face. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui veut s'engager,
il
a que l'embarras du choix, pratiquement.
Oui, c'est sûr.
Ou même parfois juste faire des dons, d'ailleurs.
C'est une forme d'engagement aussi.
C'est une forme d'engagement aussi.
Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être... parlez-nous du service, du service aux autres. Hein, ça peut être développer ça.
D'abord, c'est quelque chose d'important dans la vie, mais aussi on s'en rend compte pour beaucoup de personnes. Il suffit de voir le nombre d'associations qui œuvrent, on le disait, dans tous les domaines.
D'ailleurs, nos auditeurs peuvent justement, nous dire dans quelles associations ils œuvrent, ils sont engagés, qu'est-ce que ça leur apporte,
qu'est-ce qui les a motivés,
à s'engager. Oui, c'est important de partager tout cela.
Ouais.
Et qu'est-ce qui, tout ce qui tourne autour de cet engagement. Donc 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre.
Voilà, et aujourd'hui, quand on regarde l'importance des dons, du bénévolat, on voit combien ça vient suppléer, finalement, l'État.
C'est
parce
vrai.
Qu'il y a,
s'il n'y avait pas toutes ces associations.
S'il n'y avait pas toutes ces associations, qu'est-ce qui se passerait,
que ça soit dans... toute la vie sociale.
La vie sociale, dans le médical aussi. Tous les appels aux dons pour la recherche, pour... On voit combien la générosité humaine vient suppléer ce que l'État n'arrive plus à prendre en charge, finalement. Mais en même temps, ça permet de constater que les gens sont généreux. Si on en doute, il suffit de regarder toutes les associations qui existent pour réaliser que les gens sont généreux. Alors, pour le chrétien, ça prend un aspect particulier qui est celui de la charité, non pas que quelqu'un qui serait dans une association caritative n'aurait pas de charité, mais
oui.
Peut-être il mettrait pas ce mot-là ou pas le même sens sur le mot
que
pour le chrétien.
Parce que le chrétien, le Christ est engagé dans ce mouvement, oui.
Et c'est vraiment la participation à l'amour de Dieu envers son prochain. Mm-hmm. Et ça fait partie du cheminement spirituel du chrétien de vivre des vertus théologales. Alors, il y a la foi, l'espérance et la charité.
Et Saint Paul en parle.
Et pour lui, c'est la plus importante.
Oui. Alors, c'est la charité, dit-il. Oui.
Je ne sais pas si on relit toute la lettre de Saint Paul aux Corinthiens.
Ben, écoutez, vous pouvez. Allez-y.
Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais, les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra, car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.
Voilà.
Voilà, c'est l'hymne à l'amour de Saint Paul.
Aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, les 13 premières. On va se retrouver dans quelques instants, on va rester pour méditer cet hymne à la charité de Saint Paul. Et on écoute tout de suite, c'est René Aubry, et oui, c'est tout à fait dans le thème, regarde les autres, service aux autres, se tourner vers les autres, regarde les autres.
Radio Notre-Dame.
Arrête de jouer.
Voilà, Regarde les autres, c'était René Aubry. Alors, il y a Arthur hein, qui nous pose cette question. Enfin, voilà, Arthur, il nous dit, il est dépressif chronique, dit-il, dépressif chronique. Il prend des médicaments depuis 10 ans. Et il dit, au bout de combien de temps peut-on arrêter les médicaments?
Alors, ben, il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord, s'il est en traitement depuis 10 ans, en tout cas, quand on est dépressif et qu'on a un traitement, on peut pas arrêter les médicaments n'importe comment.
Ben non.
Ce qui veut dire que il y a qu'avec son médecin qu'il peut voir comment arrêter son traitement, si c'est possible,
si c'est possible.
Et puis après, si c'est possible,
diminuer déjà.
Comment le diminuer, parce que c'est important de pas arrêter n'importe comment un traitement contre la dépression. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si son médecin, si il continue à être dépressif, peut-être qu'en parallèle du traitement, il peut faire une psychothérapie ou une psychanalyse qui va l'aider. Alors, soit à diminuer son traitement, soit à l'arrêter. Parce que dépressif chronique, ça veut pas dire grand chose. Enfin, bien sûr, pour lui, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il est sous traitement.
Oui, mais après, pourquoi la cause, peut-être?
Quelle dépression, quel type de dépression? Soit c'est une dépression endogène et à ce moment-là, il a besoin de son traitement. Soit c'est une dépression liée à quelque chose dans son environnement, mais tant qu'il n'a pas fait une psychothérapie pour pouvoir changer ce qui lui convient pas dans sa vie ou dans l'environnement, le traitement vient l'aider, mais ça change pas la vie. Et donc là, c'est la psychothérapie qui peut l'aider. Donc c'est important qu'il fasse peut-être qu'il voit avec son médecin s'il peut pas faire une psychothérapie en parallèle. En général, c'est pas la même personne. Parce que
le médecin,
que celui qui prescrit les médicaments.
Oui. Faut deux personnes différentes. Oui.
Il vaut mieux que ça soit deux personnes de façon à ce que il y a un suivi vraiment particulier sur le plan médical et un autre accompagnement sur le plan psychologique ou de la psychothérapie. Et à ce moment-là, si la psychothérapie l'aide suffisamment ou lui permet de changer des choses dans sa vie, son médecin pourra voir comment diminuer, voire arrêter, mais dans quelles conditions. son traitement. Voilà ce qu'on peut dire.
Oui, ce qu'on peut dire, oui, c'est... Voilà, donc Arthur, voilà, c'est à voir avec le médecin de toute façon. Hein.
De toute façon, à voir avec le médecin, mais aussi se poser la question de la parallèle
avec la psychothérapie.
Voilà, d'une aide.
Avec
une psychothérapie pour avancer suffisamment sur ses difficultés personnelles ou les causes de sa dépression et voir si. Mais ça, il le verra au fur et à mesure.
Oui, il constatera, aussi.
Voir si ça devient possible d'arrêter le traitement.
Un grand merci, Pascal Farinet. On va poursuivre. Vous nous aviez relu l'hymne de la charité de Saint-Paul, puisqu'on évoque l'aide aux autres, la psychothérapie et la charité. Aux autres, que ce soit pour un chrétien, se pose la question de la charité, c'est-à-dire c'est un sens tout à fait
spirituel
et donc le Christ intervient aussi dans cette démarche.
Oui. Et d'ailleurs, Jésus insiste de nombreuses fois sur l'amour du prochain qu'il place au rang du premier commandement. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Donc, ça dit toute l'importance pour le chrétien. Alors, on connaît tous la parabole du bon samaritain qui vient poser la question... c'est qui notre prochain? Mais on pourrait lire aussi la parabole des talents sous l'angle de l'amour et de la charité, c'est-à-dire que on reçoit cette vertu de la charité et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'investit et qu'on la multiplie? Parce que finalement, l'amour et la charité, quand on la transmet, elle vient toucher l'autre et qui lui, à son tour, la transmettra. Enfin, on la fait fructifier, la multiplie.
C'est comme les talents.
Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on enferme au fond de nous pour le protéger et dans ce cas-là, un jour, ça nous sera retiré.
Ça, comme dit la parabole,
Parce qu'on le perd.
C'est
pas une punition, c'est que...
En ne faisant pas travailler, ça ne travaille pas. Donc ça s'étiole et ça disparaît.
Tout ça pour dire que la charité, c'est vraiment quelque chose de central
dans la foi chrétienne,
mais que ce n'est pas un devoir, mais d'abord une vertu théologale et surtout un élan du cœur. Et du coup, en préparant l'émission, je me suis souvenu d'un témoignage d'il y a 15 ans peut-être, d'une jeune personne qui participait à un service dans sa paroisse auprès de SDF et qui exprimait combien elle était dégoûtée par la saleté des SDF qu'elle leur amenait je sais pas quoi du café ou à manger ou je sais pas par leur odeur combien ça la répugnait mais qu'elle le faisait pour Jésus et donc elle faisait son devoir de chrétien ou de chrétienne
Alors, déjà,
je crois que faut reconnaître que c'est déjà beaucoup et que sans doute ça a participé à son cheminement à la fois humain et spirituel. Mais c'était pas de la charité, sauf au sens commun du terme, mais pas au sens spirituel, parce que la charité c'est un élan du cœur.
Ça dépasse, traverse,
Alors, on peut admirer tout le courage, toute l'abnégation de cette personne, Mais il n'y avait pas l'amour pour l'autre, il n'y avait pas l'amour de l'autre. Mm-hmm. Elle faisait son devoir de chrétienne, elle aimait Dieu et Jésus, mais elle n'aimait pas l'autre.
C'est ça, oui.
Et du coup, elle n'était pas dans une démarche
de relation,
d'amour, donc pas dans la charité, mais dans un devoir, alors avec tout ce que ça a déjà de positif, hein.
Bien sûr, oui, elle dépassait quelque chose d'elle-même, quoi. Ouais. Mais
voilà, il s'agit pas de juger. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle était d'autant plus admirable qu'elle ressentait du rejet et qu'elle était obligée de dépasser quelque chose qui la dégoûtait. Voilà, donc ça, on peut admirer tout son courage, tout son abnégation. Tout son désir de servir Dieu aussi, puisqu'elle le faisait vraiment pour la foi ou pour Jésus, mais c'était pas la charité.
Quoi,
voilà, et du coup, c'est important de distinguer la différence entre devoir et charité, et puis aussi de prendre conscience que tout le monde a des limites, finalement, dans le service aux autres. Et qu'il est préférable de s'en rendre compte, parce que forcément le SDF il devait sentir ce qui se passait.
Donc il sentait que la relation n'était pas vraiment.
Qu'elle était faussée par ce que pouvait ressentir la personne, en tout cas que le geste de donner à quelqu'un. S'il n'est pas en accord avec le ressenti, ça se sent.
Mmh.
C'est comme faire un cadeau à contre-cœur, finalement. Et puis tout le monde n'a pas le charisme d'aller forcément vers les plus pauvres, ou de Sœur Emmanuelle, ou de Mère Teresa. Il y a des charismes particuliers. Et je crois que c'est important.
Ou bien le baiser aux lépreux de François d'Assise.
Voilà. Je crois que c'est vraiment important. On ne peut pas tout faire. Mais heureusement, il y a suffisamment à faire pour que chacun puisse trouver là où servir. Et s'y sentir bien. Je crois que c'est important aussi de se sentir bien dans le service. Et pas de le faire à contre-cœur.
Bien sûr. Oui, parce que d'autres, au contraire, ont un vrai charisme pour aller...
Ouais. Mais, il y en a qui auront le charisme d'aller vers les plus pauvres, et puis il y en a qui auront le charisme, d'enseigner aux enfants, par exemple.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est pas forcément interchangeable.
Non, chacun a un talent, hein, ça, on revient au talent aussi, ça en fait partie. Pour une tâche, pour un service, un engagement particulier. Donc c'est important de trouver ce vers quoi on est
appelé à servir.
Oui.
Et que finalement, ça veut dire que pour pouvoir vivre la charité, ça nécessite aussi la prise en compte de soi-même. Et là, on joint la parole de Jésus, aimer son prochain comme soi-même.
Oui, oui.
Et donc, de prendre en compte ses désirs, ses capacités, ses limites dans un service.
Oui.
Voilà, tout ça pour dire que combien il est important que la charité soit vécue et non pas vécue comme un devoir. Parce qu'elle se vit dans la relation et non pas dans le devoir. La charité, c'est la relation. C'est-à-dire, c'est l'amour qui passe dans la relation. Et ça ne peut pas se faire en dehors de la relation.
Bien sûr.
Et donc, c'est vraiment ça qui est important. Alors, j'avais pris une autre image et comparé un mariage d'amour et un mariage de raison. J'ai rien contre le mariage de raison et même souvent il mène à l'amour. Et on le voit dans beaucoup de pays où c'était les parents qui choisissaient les conjoints. Finalement, il y a beaucoup de couples qui, mm-hmm. où les deux conjoints, s'aiment,
oui, oui.
Malgré que c'est pas eux qui aient choisi et que il y a pas forcément d'amour au départ, mais ils ont appris à s'aimer.
Mm-hmm. Et des fois, le contraire, quand c'est l'amour-passion,
qui dure pas longtemps.
Qui dure pas longtemps parce que c'est pas vrai, ça se transforme pas vraiment en amour. C'est pas vraiment
l'amour. C'est pas vraiment de l'amour non plus.
Donc, oui.
Voilà. Mais tant que, on peut pas dire que un mariage de raison, il y ait de l'amour. Tant que le couple, n'a pas construit
la relation
et appris à s'aimer.
À se connaître, à s'aimer. Donc ça se construit aussi quelque part.
Et oui.
Tout comme un mariage d'amour, il faut aussi passer un stade.
Peut-être de passer ces résistances, ces freins.
Pour construire une relation d'amour.
Pour construire une vraie relation. D'abord, au départ, une vraie relation,
qui
se transformera en relation d'amour ou de charité avec l'autre. Voilà, ce qui veut dire que ça veut pas dire de renoncer au service, mais en tout cas d'être conscient et de reconnaître la posture avec laquelle on le fait. Et peut-être qu'avec le temps, en apprenant à voir l'autre, à connaître l'autre, si on prend cette personne qui faisait un service au SDF, donc de voir la personne derrière l'apparence du SDF.
Le dépasser. Et donc à ce moment-là, s'établit une vraie relation.
Voilà.
Quand le passé, le moment de l'écran, ce qui fait écran en fait.
Voilà. Et ça, c'est vrai pour toutes les différences. C'est vrai, par rapport aux pauvres, c'est vrai par rapport au racisme. Une fois qu'on connaît la personne, il n'y a plus de racisme.
Mais oui, bien sûr.
Le racisme, il est dans le refus de la différence. C'est vrai pour l'homophobie, c'est vrai pour les différences hommes-femmes. Tant qu'on ne lit pas relation, on risque d'être ou dans le rejet, ou dans la méconnaissance de l'autre, et qui a besoin de la relation pour connaître l'autre et pouvoir vraiment être en relation.
Un grand merci, Pascal Parinet. On va y revenir dans quelques instants. On écoute tout de suite, c'est Jacques Brel, évidemment, Quand on n'a que l'amour. On a beaucoup, on a tout.
Radio Notre-Dame.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour secours, quand on n'a que l'amour malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force des
Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Donc, on évoque avec vous, Pascal Parinet, donc les psychothérapies et services aux autres.
Voilà, on disait que la charité nécessitait la relation à l'autre et de connaître l'autre dans son humanité au-delà des apparences.
Il faut la traverser. On parlait de, par exemple, cet exemple que vous donniez par rapport aux bénévoles
au SDF, mais c'est vrai par rapport au handicap aussi.
Tant qu'on n'établit pas une relation, tant qu'on reste sur une méconnaissance de l'autre.
À ce moment-là, il n'y a pas de charité qui peut passer. Alors on peut être touché, par exemple, mais la charité ne peut passer que dans la relation.
Donc si on n'y a pas de relation,
on va être touché, on va ressentir de la compassion, mais s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de charité, parce que c'est un échange entre deux personnes.
Tout cela peut être facilité justement dans une thérapie, une thérapie.
Et dans l'association des deux, et donc à la fois de la psychothérapie et du service.
Ça se renvoie. Le service peut aussi aider l'engagement, comme on a dit.
Le service peut aider
à créer une relation.
À créer la relation. Moi, ça m'arrive souvent de recevoir des personnes qui ont des activités bénévoles. Parfois même, c'est leur principale activité. Alors, pour le coup, pas bénévole, mais dans des associations. Et c'est toujours quelque chose d'enrichissant pour eux de pouvoir parler de comment ils vivent. Alors, en fonction, plus le service est difficile, et j'ai envie de dire, plus c'est intéressant aussi d'en parler. Comment ils vivent, ce qui s'y passe, les relations qu'ils établissent, comment ils se sentent, sans que ça soit de la supervision, parce qu'on peut faire aussi de la supervision, et ça, c'est encore autre chose.
Mais ça, c'est dans le...
Voilà,
entre
ça,
thérapeute,
c'est...
non
entre non, thérapeute non. ou un thérapeute, par exemple, qui supervise un lieu d'écoute. Ou des infirmières pour les aider, par exemple, à vivre toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Quand toute personne qui est confrontée à de la souffrance au quotidien, dans un travail, dans un service, ça vient l'affecter au plus profond d'elle. Et du coup, la supervision est là pour l'aider, pour d'abord qu'elle ait un lieu pour exprimer,
pour pouvoir exprimer, oui,
ce qu'elle a ressenti, pour l'aider à clarifier aussi comment elle se positionne, quel lien elle peut faire, enfin, donc c'est un travail psychologique, la supervision, à la fois pour évacuer leur senti difficile, mais aussi pour aider à améliorer l'accompagnement et la relation. Mais indépendamment de la supervision, même des personnes qui parlent juste comme ça en psychothérapie des services qu'ils peuvent vivre, déjà, ça leur apporte déjà beaucoup. Parce que le service, c'est vraiment un espace particulier pour découvrir sa relation à l'autre. Et puis, ses limites aussi. Quand on fait un service dans une association, souvent, on est amené à rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas autrement dans sa vie.
Ça ouvre un espace, oui. Relationnel.
Que ça soit des personnes pauvres, des malades ou des personnes ayant un handicap, ça permet vraiment d'ouvrir son horizon, de rencontrer l'autre dans sa différence aussi, et d'apprendre à le connaître, à l'apprécier au-delà des apparences. Parce qu'on a à apprendre beaucoup d'eux, et là, il faudrait lire ou réécouter Jean Vanier quand il parle de l'Arche.
Oui. Tout
ce qu'il peut en dire.
Ah oui, c'est sûr.
Mais c'est un enrichissement personnel aussi d'être auprès
de la personne différente.
Ouais, la personne différente. Et puis, je pense que c'est aussi une des conditions pour partager notre condition humaine d'une façon plus large que notre quotidien.
Mais oui, on élargit en étend ses cordages.
Hein. Oui. Et alors, ça, c'est pour ceux qui ont déjà un service, mais il y a beaucoup de personnes qui, au cours de leur thérapie, vont éprouver le besoin de se tourner vers les autres. Ça fait partie de la thérapie. Mais aussi de servir, d'aller dans une association au service des autres. Et je me souviens aussi d'une personne qui a commencé, pareil, un service auprès des SDF. Et tout d'abord, ça lui avait permis de changer son regard sur ces personnes, qui étaient d'un milieu social très différent. Et sans doute, elle les aurait pas rencontrés, ou elle les a. Bien sûr, tout le monde en croise dans la rue, mais on n'a pas de relation. On n'a pas de relation, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter pour parler avec. Mais au bout d'un certain temps, finalement, ça lui a permis de découvrir leur humanité, parce que ce sont des personnes. Hein.
Bien sûr.
Leur parcours, cette personne me faisait part combien elle était surprise très souvent de découvrir des aspects mais très riches chez ces personnes qu'elle soupçonnait pas a priori.
Ben oui. C'était caché sous les apparences.
Sous les apparences et même parfois une grande culture.
Eh oui, bien sûr. Certains sont très cultivés.
Qu'on n'imagine pas forcément chez quelqu'un qui vit dans la rue. Et finalement, elle témoignait qu'elle s'enrichissait à leur contact.
Bien sûr. C'est les autres. C'est elle qui apporte aussi, hein.
Oui. Et alors, elle en parlait régulièrement, en tout cas au début de son service, quand elle était. Et ça l'a beaucoup aidée dans son ouverture aux autres, mais aussi à elle-même. Parce que ça renvoyait quelque chose de l'être humain, et ça l'a aidée à s'ouvrir. Et ça a participé vraiment à s'accepter. En thérapie, le service l'a aidé à s'accepter elle-même, à accepter son histoire, à accepter ses limites, à renoncer à la contrainte de perfection, de tout bien faire. Et finalement, alors c'est sûr que la thérapie, c'est ce qui l'a fondamentalement aidé par rapport à toutes ces difficultés.
Mais il y a eu complémentarité.
Voilà, mais il y a eu complémentarité. Le service a vraiment été un accélérateur.
Oui.
C'est-à-dire que à partir du moment où elle a en même temps servi les autres,
bien sûr, mais on comprend, dans la relation, il y a eu quelque chose.
Ça a accéléré sa thérapie et ça a fait vraiment à la fois un complément et un accélérateur.
Donc ça a développé sa capacité de relation, son ouverture à la différence, oui.
Et finalement, quand on garde le service, c'est un temps privilégié pour mieux se connaître, tout comme la psychothérapie. Hein. Parce que les différences peuvent nous toucher de bien des manières. Alors souvent, dans un premier temps, ça permet de prendre conscience des résistances à aller vers les autres.
Mmh.
Alors, après, ensuite, dans un deuxième temps, ça permet de prendre conscience de nos limites dans la relation.
Mmh.
Donc, déjà, il faut se décider à aller vers les autres pour servir. Après, il y a nos limites. Ça aide souvent aussi à mieux comprendre nos réactions et nos mécanismes psychologiques. Alors là, peut-être plus dans la mesure où il y a un espace de parole pour pouvoir exprimer comment on vit le service. Et puis pour beaucoup, c'est un lieu d'ouverture à l'autre. Et c'est très souvent une source d'épanouissement. Parce que finalement, quand on regarde dans un monde où on perd le sens du travail, ou en tout cas on voit plus.
Le but.
Voilà, quand on est maçon, par exemple, et qu'on monte un mur, on voit le mur qui se monte. On a des travaux, enfin, beaucoup de personnes ont un travail tellement dématérialisé. On voit pas le résultat de son travail rapidement. Et du coup, il y a rien de plus agréable de se sentir utile.
Si on se sent inutile, la vie n'a pas de sens.
Voilà, là où le monde nous offre pas beaucoup de possibilités de se sentir utile.
Ça donne un sens à la vie.
Et du coup, ça vient donner un sens à la vie, ou en tout cas le renforcer quand il y en a déjà.
Voilà, donc on arrive vraiment à la fin, peut-être. Donc on rappelle ce stage que vous proposez
sortir des situations de harcèlement ou de violence.
18-19 juillet.
Voilà. Ou alors après, en Inde, de la Toussaint, donc aux vacances scolaires, un voyage. Alors je ne sais pas comment on va l'appeler, guérison et service ou thérapie et service.
ifpsy.com pour tous les renseignements. Et 01 06 60 15 79 60, pour tous les renseignements. Les renseignements sont au standard si vous n'avez pas pu noter. Un grand merci Pascal Parinet, merci à tous nos auditeurs, également à Laetitia et Monique au standard, Marie-Marcel et Denis pour leur collaboration, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Pierre Descouvement du diocèse de Cambrai, prédicateur, animateur de retraite. Le père Descouvement est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la foi et sur Thérèse de Lisieux. Il nous fait découvrir depuis quelque temps une disciple de Thérèse et de sa petite voix, Gabrielle Bossis. Demain, Gabrielle Bossis, la soif de désaltérer Jésus. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.